Saint-Jeudas, 25 avril 1985, séminaire sur Hegel.
Regardez les preuves ontologiques de l'existence de Dieu chez Hegel. J'ai mis de ce côté-ci le tableau, le plan que je vais essayer de suivre, et de l'autre côté, un schéma directeur, un diagramme que j'ai essayé de faire en fait juste avant cette session, donc il est très imparfait, il faudra l'expliciter, et si on a le temps y revenir. Les lettres D signifient qu'il y a là un mouvement dialectique à regarder. En fait, les relations être-non-être, par exemple, avec une synthèse qui est la présence, il s'agit toujours d'une série de mouvements dialectiques. La dialectique n'est pas une, par essence, elle est dans un mouvement continu. Donc, toute chose que je ne peux pas représenter ici. Alors, j'ai pris l'option de très peu prendre de textes de Hegel à lire, simplement parce qu'ils ne sont pas très faciles, et je ne crois pas que ça apporterait énormément à la clarté de les lire pendant une session si courte. Je voudrais simplement, pour situer un petit peu l'étude, donner trois citations qui me semblent importantes. Et je crois que vous pouvez essayer d'en retenir les mots principaux, en ce sens qu'ils reprennent en fait tout le mouvement de la pensée hegelienne. La première est « L'esprit s'oppose à soi-même comme son autre. L'autre saisi dans l'idée pure est le Fils de Dieu, et dans sa particularisation est l'esprit fini. Les mots d'esprit, les mots d'idée pure et les mots fini, ce sont trois notions, trois réalités qui vont être extrêmement importantes à la pensée d'Hegel. Hegel va donc se situer, toute sa philosophie va donc se situer à la fois dans un bain trinitaire, et donc chrétien, et dans une orientation trinitaire. C'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée. Une seconde citation à titre d'exemple. Si nous disons que l'esprit est la réflexion absolue sur soi par le moyen de la division absolue, l'amour en tant que sentiment, le savoir en tant qu'esprit, cet esprit est alors compris comme trois en un, le Père et le Fils dans leur différence, qui est leur unité comme esprit. Donc toujours ce bain trinitaire, résultat à la fois d'une division et d'une réunification. Troisième petite citation, l'esprit s'est poussé dans le monde pour avoir conscience de lui-même. La notion de conscience et l'interdépendance entre le monde et Dieu, en fait, entre le monde et l'esprit. Alors l'esprit toujours avec un grand E, bien évidemment. Alors, c'est quelles seraient nos conclusions? Je crois que c'est bon de démarrer par nos conclusions, parce que ça risque d'être touffu autrement. S'agit-il de preuves ontologiques? De preuves, sûrement pas. Et je crois qu'Hegel ne le cherche pas, n'a pas abordé sa recherche philosophique dans le sens d'un établissement de preuves. S'agit-il d'un niveau ontologique? Je ne crois pas non plus, mais là Hegel ne serait pas d'accord. Je crois simplement, ce qu'on peut dire, c'est que derrière le mot ontologique, Hegel et nous-mêmes ne mettons pas la même notion. Hegel pense avoir en fait dépassé notre notion ontologique de l'être par le niveau du devenir. C'est en fait un petit peu tout ce que le Père nous disait pendant ces dernières sessions. Alors, je voudrais rapidement essayer de présenter Hegel pour le resituer dans son contexte. Il est né en 1770 à Stuttgart. Il meurt en 1831. Il est protestant. C'est important à noter, dans le contexte protestant, d'une intelligence qui est quand même touchée par la faute originelle. Il vient juste après Kant, dont je rappelle les dates, 1724-1804, et au début de sa vie, un moment important à noter, qui est la Révolution française en 1789. On y reviendra très très rapidement. Alors, je crois qu'il y a deux axes qui peuvent, enfin il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi deux qui peuvent caractériser la philosophie hegelienne. D'une part, c'est une philosophie du mouvement, et son mouvement est son principe, et c'est une philosophie de la vie. D'autre part, le souci constant de Hegel est la recherche d'un système, d'une perfection, d'un absolu, d'une unité à travers l'esprit. Hegel veut en fait dépasser l'opposition qu'il a constatée, qu'il a reçue de Kant en fait, entre la raison pratique et la raison spéculative, entre l'intelligence et la foi. Hegel est en réaction contre tout ce qui est opposition, qu'il a ressenti soit au cours de sa jeunesse, soit, nous y reviendrons, au niveau religieux proprement dit, soit au niveau politique, soit au niveau civique. C'est donc en fait à la fois une philosophie qui se veut objective, puisqu'il part du réel, il part de l'autre, c'est en tout cas ce qu'il dit, mais c'est aussi le couronnement de l'idéalisme, du subjectif, et Hegel se justifiera en disant que sa philosophie en est la synthèse, et la synthèse la plus parfaite d'un système réaliste et d'un système idéaliste. C'est donc, si l'on veut, une vaste fresque, et Hegel a touché à tous les domaines philosophiques, c'est une vaste fresque très cohérente en fait, puisqu'elle est essentiellement fondée sur la logique, et c'est une grande vision de l'esprit en progression à travers les âges, dans un effort que nous verrons dialectique. Alors, Hegel regarde les philosophies qui l'ont, tous les systèmes philosophiques qui l'ont précédé, il ne les nie pas, il les considère simplement comme des marches d'escalier conduisant à sa propre vision philosophique, qui en est l'aboutissement et le couronnement. D'une certaine façon, j'aurais un peu tendance à dire qu'il justifie l'erreur, en ce sens que toutes les autres approches philosophiques qui ont été imparfaites, tout en les critiquant, il les accepte et les assume dans une synthèse qu'il fait sienne. Et grande caractéristique que tout le monde connaît de son approche philosophique, c'est le primat de la négation, puisque l'esprit seul, et nous verrons pourquoi, peut dans une démarche dépasser les contraires, ces contraires qui obsèdent en fait Hegel. Et je crois que si on n'a pas compris ça, on risque de passer à côté de la raison profonde. Hegel est angoissé par tous ces contraires à tous les niveaux qu'il rencontre et il essaye simplement de les dépasser. Alors, il les dépasse dans une synthèse dialectique, mais on peut dire simplement en passant que Nietzsche les dépassera non pas par une synthèse, mais en expulsant l'un des deux contraires. Hegel a en fait eu une crise religieuse profonde alors qu'il était séminariste à Tübingen, et crise au cours de laquelle il a été tenté de rejeter la foi sous prétexte qu'il y avait cette opposition qu'il recevait de Kant en partie, mais qu'il constatait aussi en lui-même, entre la foi et la raison, et une opposition qui était tellement radicale que, à ses yeux, le christianisme empêchait l'homme de vivre dans le monde de façon réaliste, puisqu'il était toujours tiraillé entre l'au-delà et cette réalité terrestre dans laquelle il était obligé de se maintenir. Alors, la conclusion de son système, que je donne dès maintenant, est que Dieu est immanent à l'esprit humain. Dieu est l'esprit humain qui devient parfaitement lui-même dans la dialectique. Je veux dire par là, qui devient parfaitement lui-même dans le mouvement dialectique de l'intelligence humaine. Autrement dit, Dieu a besoin de l'intelligence humaine. Alors, quelles sont ces œuvres majeures? Je crois qu'il faut quand même les connaître. Il y a d'abord la logique et la métaphysique. Je parle des œuvres majeures, hein, simplement. Logique et métaphysique, puis phénoménologie de l'esprit, encyclopédie des sciences philosophiques, philosophie des religions, et le dernier, qui est l'épreuve de l'existence de Dieu. Donc, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est une œuvre qui se veut être le point final de la recherche de tout l'esprit humain qui, jusqu'à Hegel, a été en fait errant et n'a jamais pu vraiment trouver sa demeure. L'œuvre philosophique d'Hegel fixe la demeure de l'esprit humain. Et donc, c'est un point final sur lequel tout le monde est censé pouvoir se reposer. Alors, on peut regarder rapidement le pourquoi de cette œuvre et le pourquoi de ces options majeures. On a dit qu'Hegel recherchait une harmonie. C'est une harmonie, et c'est de façon très profonde et très vitale. Il a été à un moment très séduit par Kant. Il a été séduit par cette approche de Kant qui est quand même dans une opposition entre foi et raison, entre raison spéculative et raison pratique. Opposition qui devait fonder une certaine approche de la liberté. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure la Révolution française de 1789. La Révolution française, à partir du moment où elle était un échec, à partir du moment où sa base reposait sur ce genre d'opposition, a été pour lui la preuve par neuf que rester dans le domaine de ce genre d'opposition condamnait l'homme à ne pas pouvoir se maintenir dans une liberté profonde. Et donc, l'a poussé à rechercher au sein d'une synthèse qu'il allait expliciter le moyen de libérer l'homme. Alors, quelle sera donc cette liberté qu'Hegel recherche ? Ce sera une liberté qui part de l'autre, mais qui ne regarde plus l'autre comme ma fin, comme sa fin, mais l'autre étant ma limite, doit être réincorporé en moi d'une façon synthétique pour m'être totalement immanent et ainsi supprimer l'extériorité. Donc une conception de la finalité qui n'est plus externe, extérieure, qui n'est plus une fin hors de moi, mais qui devient une fin en moi après un effort dialectique. Alors, en fait, donc, il ne s'agit pas de fuir l'autre, mais il s'agit de l'incorporer en moi. Et à l'aboutissement, par une série de négations, nous y reviendrons, Hegel va réussir à ramener à lui tout ce qui est autre, y compris Dieu. Et d'une certaine façon, l'ensemble de l'univers, y compris l'infini, lui sera immanent, ce qui est effectivement le meilleur moyen d'éviter toute contradiction. Alors cette synthèse, donc c'est une série de synthèses, ne peut se faire qu'au niveau du concept, et donc elle ne peut se faire qu'au niveau de l'esprit. Ne se faisant qu'au niveau du concept et au niveau de l'esprit, elle va se systématiser, et c'est justement le début de notre étude, elle va se systématiser dans la philosophie, et plus particulièrement, quand il s'agit du concept de Dieu, dans la philosophie de la religion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette philosophie de la religion ? C'est donc une synthèse de l'évolution religieuse, de l'évolution de la révélation religieuse, quels que soient les types de révélations, au cours de l'histoire, au cours des millénaires qui nous ont précédés, avec comme sommet la religion chrétienne et comme sommet de la révélation la Trinité, la Sainte Trinité. Hegel part du principe que le phénomène religieux existe et le sentiment religieux existe de facto dans chaque personne, et ce sera son point de départ. Et d'une certaine façon, dès à présent, on peut dire que ce ne sera pas une preuve de l'existence de Dieu, puisqu'il admet que tout homme sensé a déjà fait ce choix de reconnaître en lui un sentiment religieux fondamental et premier. Et donc son souci n'est pas du tout d'amener l'homme à croire à l'existence de Dieu. Il est simplement d'aider l'esprit humain à connaître celui qui de toute façon l'habite. Et nous le verrons, non seulement à connaître, mais à permettre à ce Dieu qui l'habite de vivre sa vie en totalité à travers un épanouissement de l'esprit humain. Alors, dès à présent, on peut voir que Hegel ne pourra pas utiliser une métaphysique au sens réaliste et aristotélicien du terme, à partir du moment où il ne peut pas s'arrêter à une vision de l'autre en maintenant cette extériorité. Il se justifiera en disant que Dieu, par nécessité, est esprit, et donc il est évident qu'une métaphysique qui n'incorpore pas dans son approche la subjectivité de l'esprit humain qui reçoit cet esprit divin, il est évident qu'une telle métaphysique ne peut pas présenter en totalité la réalité de Dieu. Et ce sera en fait la nécessité d'une approche beaucoup plus subjective qui sera celle de la logique. Donc en bref, si l'on veut, la philosophie est un pont, la philosophie de la religion est un pont entre ce sentiment religieux de base que chaque homme a en lui et la révélation chrétienne qui a explicité dans sa totalité le concept de Dieu. C'est donc une élévation de l'intelligence, une élévation qui va se faire par un mouvement dialectique constant, on va essayer de l'expliciter, une élévation de l'intelligence qui va essayer de rejoindre Dieu totalement, et ça je crois que c'est quand même important à retenir par rapport aux théologies actuelles qui parfois essayent de s'appuyer sur l'hégélianisme, en fait totalement en opposition avec la réalité de la grâce. C'est l'homme qui va s'élever par son effort d'intelligence à une connaissance de Dieu, et non pas du tout Dieu qui va attirer à travers le Père, qui va attirer à travers le Christ l'homme à lui. Alors je voudrais donner quelques repères philosophiques essentiels, en sachant bien donc que cette philosophie va d'une part essayer d'aider, je dirais, le papillon à sortir de son cocon du côté de l'homme, l'intelligence humaine qui est vraiment dans la boue et qui doit petit à petit s'élever par un effort dialectique, et d'autre part aider Dieu d'une certaine façon à s'expliciter, à vivre totalement sa vie à travers une intelligence humaine épurée. Je voudrais donner quelques repères donc philosophiques, je crois qu'ils sont importants. J'essaierai d'être très bref parce que ça ne peut pas être très très précis, mais je crois que c'est important parce que sous des mêmes concepts on risque d'avoir une confusion énorme avec les concepts utilisés par une philosophie réaliste, et je vous demande de les écouter avec précision. Il y a beaucoup de mots qui sont à retenir. L'être, qu'est-ce que c'est que l'être pour Hegel? L'être est la simple immédiateté dépourvue de contenu qui a son contraire dans le pur néant, l'union des deux étant le devenir. Donc l'être se définit par rapport au non-être, par rapport à sa négation, et l'union synthétique des deux est le devenir. Alors de toute évidence, ce que j'ai mis ici, pas encore, mais cette synthèse dialectique entre l'être et le non-être n'est pas une étape unique, elle est une étape dialectique qui est dans un mouvement, par définition. Qu'est-ce que c'est que la présence? Alors la présence est de nouveau une synthèse dialectique entre ce devenir que j'ai obtenu dialectiquement précédemment et tout ce qui n'est pas ce devenir. C'est donc une nouvelle étape dialectique qui rentre dans ce mouvement dont je parle. Alors, cette synthèse va pouvoir s'appliquer à toute réalité, et par excellence à la réalité absolue qui est la réalité de Dieu. Alors, troisième étape, penser en elle-même et dans sa relation au non-être, la présence est réalité. Donc nouvelle négation et synthèse dialectique. Donc la réalité est en fait, si l'on veut, le résultat dialectique de deux mouvements synthétiques de négation. Le concept. Alors le concept vient de moi, il s'élabore par négation de l'immédiat. La raison va commencer à classer les différentes individualités par type d'universalité. Puis négation, donc il y a une première négation pour pouvoir dire que telle universalité n'est pas telle autre. Donc, pour pouvoir les classer et ordonner les universalités entre elles, il va falloir présenter l'une comme la négation de l'autre. Donc c'est une première négation. Puis négation de cette négation pour rétablir un lien, puisque malgré tout ces universalités sont unies et ne sont qu'un dans un sujet ou dans un objet plutôt réceptacle. Et ça n'est que comme résultat de cette double négation et de cette double synthèse dialectique que le concept peut vraiment être considéré comme étant la réalité objective. Alors n'essayez pas trop de comprendre immédiatement tout le détail, on essaiera d'y revenir. Il est évident que je crois qu'on peut pas comprendre de façon très précise en le faisant si vite, mais simplement pour avoir la teinture nécessaire. Ensuite, l'idée qui va être l'unité du concept et de la réalité. Et cette unité, résultat de deux mouvements dialectiques, l'un que je citerai plus au niveau métaphysique, l'autre au niveau logique, cette unité est en fait vie aux yeux de Hegel. Elle est aussi bien vie physique que spirituelle, et c'est cette unité qui sera la vie ultime du concept et de la réalité. L'esprit, maintenant, l'esprit se développe, je dirais, selon trois étapes. D'une part, l'esprit se sait lui-même. D'autre part, ensuite, seconde étape, il se sépare de son objet, qui est lui-même. Donc il s'en sépare, extériorité. Puis, troisième étape, retour sur soi, et c'est l'esprit en soi. Sa vie est en fait un petit peu schématisée ici. Elle correspond un petit peu à ce qu'on disait au niveau religieux. La vie générale de l'esprit, mais on pourrait donc l'appliquer au niveau d'une approche religieuse, donc de l'esprit face à Dieu, part d'abord de la connaissance d'une réalité au niveau du sentiment, qui est encore très très teinté de sensible, idem pour la piété religieuse, qui va petit à petit s'affiner en passant par ce qu'Hegel appelle la représentation, qui n'a rien à voir avec la représentation aristotélicienne. Disons que la représentation est un sentiment un petit peu affiné et qui commence à se dégager du sensible. Mais ce n'est pas du tout la représentation aristotélicienne au niveau de l'imaginaire. Alors, la connaissance de Dieu maintenant, là, je crois qu'on apporte quand même maintenant le principal. La connaissance de Dieu, premièrement, l'étude de la vie religieuse qui existe de facto. On l'a dit, Hegel a constaté que la vie religieuse existait en tout homme. J'ai envie de dire, malgré lui, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, elle existe. Le problème d'Hegel est qu'il rencontre tout de suite une opposition. Cette opposition est simple à comprendre. Une opposition entre la foi, quelle qu'elle soit, puisque la foi est basée sur un sentiment religieux de dépendance qui s'exprime par la confiance, qui s'exprime par l'abandon, et d'autre part, une exigence de l'intelligence, d'autonomie, qui s'exprime par la nécessité de connaître par elle-même. Et effectivement, Hegel nous dit que très rapidement, dès que l'homme, après avoir pris conscience de son sentiment religieux, essaye d'expliciter sa foi, essaye d'utiliser son intelligence, il fait face à une contradiction. Il prend un exemple, alors il prend beaucoup d'exemples, j'en ai retenu un dont je n'ai pas le détail mais qui m'amusait, où il dit en fait, voilà, prenons le chrétien qui essaye d'expliciter sa foi en essayant de comprendre toute chose dans la lumière de la sagesse divine. Il va prendre par exemple l'exemple de l'homme qui pour se nourrir a besoin de tuer le petit agneau pour en faire un beefsteak. Enfin non, pas un beefsteak, un méchoui. Un méchoui. Alors, du côté de l'homme, l'homme en réfléchissant sur la base de sa foi dira au fond c'est très bien, la sagesse de Dieu est d'avoir créé le petit agneau pour que je puisse en faire un bon méchoui. Mais du côté de l'agneau, la sagesse de Dieu ne sera pas du tout ça, elle ne sera pas du tout de dire merci mon Dieu d'avoir créé l'homme pour pouvoir ensuite me faire rôtir. Donc, de toute évidence, je prends là un exemple assez évident. Mais on pourrait très bien reprendre cet exemple entre deux êtres spirituels qui essayent d'expliquer un même phénomène pour essayer de rejoindre la sagesse de Dieu et qui n'arriveront pas à se rejoindre, en fait. Autrement dit, Hegel dit tout de suite, mais il est impossible que deux personnes arrivent à se mettre d'accord. Enfin, il ne le dit pas de cette façon-là, mais ça revient à ça. Que deux êtres spirituels arrivent à se mettre d'accord, à mettre au service leur intelligence pour rejoindre d'une façon une la sagesse divine. Et tout ça, le grand mal ou Hegel est le grand, la grande source de tous ces mots, et que cette approche qui essaye d'utiliser l'intelligence pour expliciter la foi reste extérieure. Elle continue à regarder l'homme comme extérieur à celui qui essaye de le rejoindre. Et c'est pour lui l'évidence, la claire évidence, que la seule façon de rejoindre Dieu, de le comprendre, de le connaître, sera d'éliminer cette extériorité pour rendre l'existence de Dieu et son intelligibilité totalement immanente à l'homme. Alors Hegel se pose ensuite la question, mais au fond, est-ce qu'une science exacte pourrait répondre à ce critère ? Apparemment oui, d'après la définition qu'il donne des sciences exactes. Alors je le cite, la connaissance et la science placent tout le divers dans un regard immanent, donc ça a l'air de répondre aux critères, ôtent aux objets particuliers leur caractère contingent, très bien, elles forment à partir de ces rapports un système qui est une fin en soi. Donc tout ça a l'air d'être parfait. La seule chose est que ce type de connaissance fournie par une science exacte ne peut appréhender l'infini. Il restera forcément au niveau du fini, puisque connaître, c'est prendre en soi, c'est capter en soi, donc au niveau fini, la réalité que l'on... Simplement en suivant simplement ces définitions des mouvements de l'esprit, c'est capter en soi la réalité. Alors tout ça sera très bien quand on essaiera d'étudier la réalité finie, mais connaître Dieu par une approche telle que peut le présenter une science exacte, est une absurdité, puisque ce sera essayer à partir du fini d'appréhender l'infini. Seule solution, de nouveau, la philosophie, qui va essayer de dépasser ces oppositions finies-infinies. La philosophie de la religion est donc une élévation de l'esprit, on l'a dit. Je voudrais simplement citer un petit passage d'Hegel. En étant simplement religieux et en tant que nous nous élevons au-dessus de tous les rapports avec le fini, nous savons que Dieu ne permet pas qu'on l'observe, qu'on le sente comme un objet extérieur sensible. La nature est le monde extérieur et nous sommes le monde intérieur. Notre rapport à Dieu est tel que celui-ci ne peut se présenter à nous comme la nature, comme un objet, puisqu'il y aurait cette opposition fini-infini. Mais au contraire, nous devons nous élever vers lui et trouver son contenu en nous. Il ne s'agit donc plus d'observer Dieu, il ne s'agit même plus de recevoir sa révélation, mais de le penser. Il s'agit vraiment de penser Dieu pour lui permettre de nous habiter effectivement. Alors, la religion, quelle qu'elle soit, et la philosophie de la religion en est l'étude, est donc l'étude de la relation entre Dieu et l'homme. Dieu étant la négation de l'homme, puisqu'il est son extériorité a priori, ça c'est le point de départ, puisqu'il est l'infini alors que l'homme est fini, et en tant que sa négation, il lui est donc totalement destiné dans l'esprit hegelien. Dieu est l'autre en tant que ma négation. Et Hegel va constater en l'homme deux mouvements. D'une part, une aspiration vers l'infini, qui va, d'une certaine façon, le pousser à s'élever au-dessus de lui-même, hors de lui-même. Et d'autre part, la finité de l'esprit humain, qui va avoir tendance à le replier sur lui-même. La seule issue est, dans une synthèse dialectique, de cette intériorité de l'homme avec tout ce qui lui est extérieur et qui, en fait, est à la fois sa limite et sa négation. Cette synthèse entre ce que je suis et ce qui m'est extérieur et ce qui m'est le plus extérieur et le plus enveloppant, je dirais, étant Dieu, sera le « moi » avec un grand « M ». Hegel le souligne, seulement après cette synthèse peut effectivement dire en vérité je suis. Donc si je dis je suis sans du tout avoir épuré mon approche, mon intelligence par une synthèse dialectique et une appréhension dialectique de tout ce qui m'environne, je ne suis pas dans la vérité. Ça ne peut être qu'après ce schéma dialectique global. Alors, du côté de Dieu, je cite Hegel, la religion est la connaissance que l'esprit divin a de soi par la médiation de l'esprit fini. Donc du côté de l'homme, il y a d'une part une épuration progressive de l'intelligence par un mouvement dialectique qui permettra à l'intelligence humaine de s'épurer et de s'élever vers Dieu, mais aussi du côté de Dieu, ce mouvement va lui permettre, donc je répète, la religion est la connaissance que l'esprit divin a de soi par la médiation de l'esprit fini. Donc va permettre à l'esprit divin de se connaître. L'esprit divin se connaît et vit pleinement sa vie à travers l'esprit humain. Autrement dit, la religion est nécessaire à Dieu. Dieu n'est absolument pas indépendant de sa créature, et une fois de plus, on voit pourquoi Hegel, il est parfaitement cohérent avec lui-même, il est toujours très très cohérent, puisqu'en fait son système est logique, est basé sur la logique. Hegel est parfaitement cohérent par lui-même lorsqu'il rejette la métaphysique, puisque la métaphysique est ultimement la philosophie de l'autre et la philosophie de l'autre comme autre, qui de toute évidence empêchera, si je me bornais à la métaphysique, ce serait une science qui empêcherait d'une part de rejoindre Dieu, mais même beaucoup plus grave, et c'est le reproche qu'il fera à Aristote et ensuite à saint Thomas, je lirai un petit passage, qui empêche même Dieu de vivre sa vie dans toute sa plénitude. Je voudrais peut-être maintenant lire ce petit passage pour vous donner un exemple de ce que c'est que cette étude, cette vaste fresque de la philosophie de la religion, où donc Hegel, c'est un ouvrage très gros, Hegel va donc étudier les religions les unes après les autres, ou plutôt l'évolution de la religion, l'évolution de la pensée religieuse dans l'histoire, les unes après les autres, en montrant toujours, en essayant d'expliciter la succession de telle époque par rapport à telle autre, comme résultat synthétique à la fois d'un aspect positif de l'époque précédente, mais aussi de sa carence. Alors, je vous cite ce qu'il et puis on pourra essayer d'en parler. Je vous cite ce qu'il dit de l'époque scolastique, du Moyen Âge. Enfin, j'ai pas tout repris, j'ai pris quelques passages frappants qui sont assez frappants justement. Il nous faut maintenant porter un jugement sur les scolastiques. Ils se livraient à l'examen d'objets très élevés de la religion. Donc ça, c'est très bien. Il y avait des individus nobles et profonds. Bien. Mais l'ensemble qui s'offre à nous n'est qu'une philosophie barbare. Le Moyen-Âge est une époque barbare sous sa forme la plus perverse, puisqu'ils pervertissent l'idée absolue, ce qui est vraiment le crime par excellence, et nous verrons pourquoi tout à l'heure dans la logique, aux yeux de Hegel. Nous y voyons un monde divin extérieur, et ça c'est la grande angoisse d'Hegel, bien qu'il soit dans la représentation. Malgré sa nature spéculative, ce monde divin est mis au niveau et reste au niveau de la sensibilité. Et c'est tout l'effort d'Hegel de justement sortir la religion de la sensibilité, de ce qu'il appelle même la piété sensible. Nous sommes en présence de deux mondes, un royaume de la vie et un royaume de la mort. Toujours ce grand problème de la dualité que Hegel essaye de fuir, ou plutôt d'assumer en fait. Dans la nature sensible, il n'y avait rien de divin parce qu'elle était le tombeau de Dieu, de même que Dieu était en dehors d'elle. Et aux yeux des scolastiques, seule la mort permettait d'accéder à ce royaume. La réconciliation apportée par Marie et les saints n'était que formelle. Alors que Hegel va essayer justement d'apporter cette réconciliation. Marie n'a pas connu la dialectique et c'est son grand tort. Hegel va pouvoir en fait apporter cette réconciliation. Mais c'est tout à fait ça. Alors, la réconciliation apportée par Marie et les saints n'était que formelle. Elle n'était pas en soi et pour soi. Alors bon, c'est le grand dada de Hegel. Je n'explicite pas immédiatement, mais c'est un terme important à retenir. Barbares, les hommes du Moyen-Âge ne peuvent digérer la vérité et ne trouvent l'apaisement qu'en l'extériorisant. Or de même, à travers l'art par exemple, hein, l'art roman, l'art gothique, la religion ne pouvait avoir sa figure véritable que dans un petit nombre d'individus isolés, et ça c'est pour nous, morts au monde, les moines, qui peuvent se contracter, se resserrer, se recueillir dans l'intimité de leur esprit. Donc aux yeux d'Hegel, les moines sont le couronnement dialectique, ou plutôt ont cette chance de pouvoir, en se recueillant en eux-mêmes, être vraiment ceux qui pourront comprendre son approche dialectique et poursuivre à fond, dans toute sa pureté, son approche de Dieu. Ce qui n'est pas forcément ce à quoi on est appelé, je pense. Alors, il donne un exemple de ces contradictions constantes dans le Moyen-Âge, en montrant combien le Moyen-Âge est barbare, en disant, prenez l'exemple de l'arrivée des croisés à Jérusalem, on voit alterner au sein d'une même personne des scènes de bravoure et des scènes de bestialité, où les soldats allaient violer les pauvres femmes. Donc de toute évidence, c'est une époque barbare et qui appelle la synthèse, dialectique entre des opposés que l'homme recèle en lui. Et de toute évidence, c'est un appel à la Renaissance qu'il présenta ensuite comme une synthèse dialectique de ces opposés. Autrement dit, en fait, il regarde l'histoire de l'Église, bon, il le fait pour les autres religions, mais il regarde l'histoire religieuse comme le résultat d'une série de synthèses dialectiques et absolument pas du tout comme un mouvement orienté par une finalité. Alors ça, on a regardé jusqu'à présent donc l'histoire de la religion comme permettant à l'esprit humain de désenvelopper, de se purifier, de désenvelopper en fait vers une connaissance de Dieu, ce qu'il porte en lui en germe, au niveau de la piété en fait. C'est une approche longue qui a demandé en fait des millénaires, et Hegel heureusement l'a résumé dans certains livres, mais c'est une approche très longue. Alors une seconde approche qui est plus courte mais beaucoup plus abrupte, qui est l'approche de la logique, dont on va parler maintenant. Et en fait on verra que les deux se complètent. Et j'ai choisi même cette approche de la philosophie, de présenter l'approche de la philosophie de la religion, qui est ici, et d'une certaine façon est l'aboutissement, avant la présentation de la logique, alors que chronologiquement dans l'œuvre d'Hegel, c'est d'abord la logique qui, à partir du concept de Dieu, nous allons y revenir, aboutit à la notion d'esprit avec un grand E, cet esprit ensuite se révélant et s'exprimant à travers la religion. C'est donc dans l'œuvre hegelienne, c'est en premier la logique, en second la philosophie des religions. J'ai choisi de présenter la philosophie des religions en premier, avant la logique d'abord, parce que ça me paraissait plus simple et plus pragmatique, d'une certaine façon plus réaliste. Et je crois, j'ai l'impression que ça doit correspondre aussi, non pas donc à l'ordre génétique de l'œuvre hegelienne, mais sûrement au mouvement de son angoisse profonde. Il est parti de l'existence de facto des religions. Il les a regardées, il ne les a pas compris, il a essayé de les comprendre, mais ça n'était qu'une compréhension imparfaite. Et c'est ce qui a été en lui, je pense, le mouvement d'appel à la synthèse magistrale de la logique et de la conceptualisation totale non seulement de l'idée de Dieu, mais de la réalité vivante de Dieu. Alors, nous allons y venir maintenant. Alors, pour ça, il faudrait avoir, je vais peut-être aller un petit peu vite, pour ça, il faudrait avoir de nouveau présent à l'esprit tous les mouvements, toutes les définitions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Disons, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure si on a le temps, que le sommet de la logique, qui est donc une évolution dialectique de l'intelligence dans son effort de connaissance de la réalité autour d'elle, et plus particulièrement de la réalité ultime qu'est Dieu, que le sommet de cet effort dialectique dans la philosophie logique est l'idée absolue, ce qu'il appelle l'idée absolue, qui est le couronnement. Alors, inutile de reprendre tout ce mouvement qui est très long et très difficile. Disons que pour Hegel, il est parti de cette notion d'être, qui en fait est un être de la réalité, à partir de la réalité, l'être est un être extrêmement imparfait, à partir du moment où il ne contient pas la vie, et c'est seul ce mouvement dialectique dont je viens de parler, qui, couronné dans l'idée, et plus précisément dans l'idée absolue quand il s'agit de Dieu, permet d'atteindre en réalité et en vérité l'être existant, et c'est-à-dire l'être dans le devenir, l'être vivant. Alors, partons donc de cette idée absolue simplement pour montrer la fin de son raisonnement. Il aboutit donc à l'idée absolue. Mais Hegel doit rester de nouveau cohérent avec lui-même en disant, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour cette idée absolue de s'extérioriser de nouveau, faisant ainsi appel à une nouvelle synthèse dialectique? Effectivement, l'idée absolue, qui est un premier, on est quand même très proche du dévoilement ultime de Dieu, donc appelons-le Dieu, même si le dévoilement n'est pas encore ultime, Dieu va, à travers cette idée absolue, donc Dieu va s'extérioriser dans la nature, donc dans le cosmos, à travers toutes les réalités qui nous entourent, et reviendra en lui-même dans une nouvelle synthèse dialectique. C'est bien une synthèse dialectique puisqu'il s'est extériorisé, donc ce qui n'est pas lui, ce qui est sa négation, il revient en lui-même. Il s'agit d'une synthèse dialectique que j'ai schématisée ici, idée nature. Et la synthèse dialectique résultat sera ce qu'il appelle esprit. L'esprit est vraiment l'idée absolue, appelons-la Dieu, qui sait qu'après s'être extériorisé dans la nature, revient en lui-même dans une synthèse, retrouve son immanence en soi et pour soi, et devient totalement lui-même. Alors, encore une fois, on peut se demander, est-ce que l'esprit est la phase ultime? Pourquoi ne pas continuer à l'infini ces synthèses dialectiques? Il est clair, et Hegel le dit clairement, il est clair que, en fait, l'esprit ne peut pas aller plus loin, puisque à travers cette extériorisation dans la nature, Dieu a touché, je dirais, l'ensemble du cosmos, l'ensemble de la réalité, la nature étant l'ensemble du cosmos. Il y a donc Dieu, une fois revenu en lui en tant qu'esprit avec un grand E, n'a plus aucune possibilité de s'extérioriser de nouveau, ce qui créerait ou ce qui nécessiterait une nouvelle synthèse dialectique. Mais on a bien atteint à travers l'esprit, je dirais, le point ultime de la vie de Dieu. Alors encore une fois, si on voulait relire Hegel et de façon dans un esprit hegelien rigoureux, il faudrait commencer par la logique qui aboutit à partir du qui aboutit à l'esprit concept mais aussi réalité pure et vivante de Dieu, et ensuite voir comment elle s'extériorise dans les religions et voir que cette extériorisation ad extra, je dirais, permet de revenir en soi, Dieu revient de nouveau en soi, dans un couronnement qui, d'une part, synthétise ce concept divin résultat de la logique, et tout ce mouvement de la révélation à travers l'homme, et qui s'exprime à travers les différentes religions. Alors, s'agit-il de preuves? Bon, je crois qu'on y a un petit peu partiellement répondu. Je crois que, d'une certaine façon, Hegel se situe dans le grand courant de Saint Anselme à partir du moment où son point de départ est l'existence de Dieu, l'existence des religions. Donc, ne parlons pas de preuves, l'existence du phénomène religieux. Essayons rapidement de reprendre son son schéma directeur tel que je viens de le dire. Le concept, le phénomène religieux existe en chaque homme, donc le concept de Dieu existe en chaque homme, et c'est à travers donc ce schéma dialectique que ce concept de Dieu va se purifier progressivement jusqu'à aboutir par synthèse successive à l'esprit divin, au concept d'esprit, mais qui est déjà une réalité vivante, cet esprit s'extériorisant dans les religions et revenant en lui-même pour à la fois à travers lui-même et à travers l'esprit humain atteindre son absolue cohérence, je dirais. On peut se poser, alors je vais très vite malheureusement, il y aura sûrement un tas de questions à se poser. Moi, je me suis posé quelques petites questions en me disant, au fond, c'est une philosophie très belle et c'est extrêmement séduisant quand, je dirais, pour quelqu'un qui essaye d'utiliser la force de ses jarrets et uniquement son intelligence pour éviter la grâce et essayer de rejoindre Dieu par ses propres moyens, c'est très séduisant. Mais on peut quand même se demander ce qu'il advient des esprits médiocres qui ne peuvent quand même pas suivre cette démarche qui est très très longue et très compliquée. Hegel n'y revient, enfin ne le précise pas d'ailleurs, mais de toute évidence, il le dit de façon imparfaite, en admettant qu'il y ait, c'est ce qui s'est passé historiquement, qu'il y ait quand même beaucoup beaucoup d'esprits qui en sont restés soit un sentiment religieux de style piété.